Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French. On mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bon dimanche. Il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui, et comme chaque dimanche, nous aurons de l'actualité, nous aurons de la culture et nous parlerons également de notre communauté, la communauté francophone en Australie. Mais pour débuter cette émission, on va parler du WOMAD à Adelaide en ce dimanche.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le plaisir d'avoir Damien Drouin. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur SBS en Australie. Vous venez en Australie prochainement pour WOMAD Adelaide au mois de mars avec votre compagnie Hors Surface que vous avez créée. Et vous êtes aussi le directeur artistique, si je ne me trompe pas. Peut-être pour les auditeurs qui nous écoutent, parlez-nous de votre compagnie.
Alors, la compagnie Hors Surface, c'est une compagnie de nouveaux cirques. Donc, en fait, je mêle la voltige au trampoline, l'équilibre sur le funambule et d'autres disciplines acrobatiques avec vraiment un langage chorégraphique et une corporalité assez théâtrale. Donc voilà, j'essaie de mélanger un petit peu pour donner du sens à l'acrobatie. Depuis 15 ans maintenant, on est basé à Toulon, dans le sud de la France. Et voilà, j'essaie vraiment d'alterner dans mes créations des spectacles pour l'espace public, comme il va y avoir au festival, des spectacles pour le théâtre. Voilà, c'est vraiment les choses qui sont importantes pour moi, de pouvoir jouer à la fois dans des lieux dédiés au spectacle et dans des lieux non dédiés au spectacle pour toucher un maximum de public.
Et en Australie, on va avoir la possibilité de voir Le Poids des Nuages et Home. Les Australiens vont découvrir quoi exactement avec ces deux spectacles ?
Alors, Home, c'est mon solo, en fait, où là, donc c'est une grande toile de trampoline que j'ai conçue il y a une quinzaine d'années maintenant, que j'appelle Acronet. Donc voilà, elle fait 80 mètres carrés de toile qui permet vraiment de faire de la voltige au trampoline, mais sous un autre angle, parce que ça raconte pas du tout un trampoline de gymnastique. On a un funambule au-dessus à 5 mètres. Donc, on va alterner entre l'équilibre sur le funambule et la voltige au trampoline. Ça, c'est pour la technique. Après, au niveau du propos, voilà, moi, je me suis beaucoup inspiré du bateau Yves de Rimbaud, qui est un poème. Ouais. En fait, voilà, c'est un personnage qui va plonger dans les abysses de la mer. Donc, voilà, c'est un poème acrobatique inspiré de la mer et du bateau ivre. Donc ça, c'est mon solo homme. Et ensuite, Le Poids des Nuages, c'est un duo un peu plus burlesque, où en fait, c'est une quête absurde de deux hommes qui essayent d'aller toujours plus haut. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil au fait que l'humain a toujours besoin d'aller plus haut, et ça, c'est bien de voir grand, mais à un moment donné, il y a aussi quelque chose qui devient absurde, et finalement, c'est le chemin qui est plus intéressant. Ces deux personnages vont vivre plein de choses autour de cette échelle qui mène au nuage, mais pas beaucoup plus loin. Voilà.
Parlez de l'équipe qui vous entoure. Est-ce que tous les membres viendront avec vous ici en Australie ?
On est beaucoup dans la compagnie. Et là, on va avoir du coup, on sera trois artistes au plateau. On sera aussi avec Bérénice, qui s'occupe de la logistique et de la production. Et on a aussi Cobb, qui lui est régisseur. Voilà, dans Le Poids des Nuages, notamment, il y a des parties cachées où on a besoin d'un régisseur technique qui nous suit.
Et donc, d'après ce que je comprends, vous présentez ces spectacles dans des parcs principalement, comme le parc de WOMAD Adelaide.
Exactement, oui.
Et vous faites quoi après WOMAD Adelaide? Il y a des tournées autour de l'Australie ou en Nouvelle-Zélande peut-être ?
Eh bien, Nouvelle-Zélande, non, on n'a pas encore eu de contact, mais par contre, on est en contact avec la Corée du Sud, sur lequel on, voilà, les spectacles vont pouvoir prendre le bateau et continuer leur route pas trop loin, on espère. Mais on aurait adoré pouvoir aller aussi en Nouvelle-Zélande, mais voilà, pour l'instant, ça ne se fait pas encore.
Parlons un petit peu de vous, parlez un petit peu de vos inspirations pour créer ces spectacles. Elles viennent comment et quel a été le déclic pour vous?
Alors, pour Home, pour mon solo, en fait, ben, comme je le disais tout à l'heure, c'est le bateau ivre, en fait, qui a déclenché le désir de cette création. C'est un ami qui m'a mis ce poème dans les mains et du coup, je l'ai lu et relu et je me suis vraiment dit que il y avait un imaginaire visuel et poétique incroyable et que j'avais envie de faire résonner ce poème avec ma structure et mon corps. Donc ça, voilà, c'est vraiment ce déclencheur-là. Après, la structure, elle est venue... c'est une structure que j'ai créée au CNAC, donc pendant au Centre National des Arts du Cirque, pendant mes études. Et donc du coup, voilà, ça m'a beaucoup inspiré sur le fait de vouloir quitter un petit peu l'aspect très gymnastique du corps. Donc du coup, voilà, j'ai cassé un peu le cadre du trampoline et à la fois, j'ai travaillé énormément la danse pour donner à la voltige une autre dimension. Voilà, ça c'est pour mon solo. Après, pour le poids des nuages, ben, en fait, il y a encore cette acronette, mais là, cette fois, j'ai fait un trou au milieu. En fait, c'est ça qui est intéressant avec ces de pouvoir jouer ces deux formes. Et qu'on va dire, acrobatiquement, ça pourrait être un peu la même chose, c'est une acronette, une grande toile, sauf qu'en fait, dans le dispositif scénographique, la manière dont il est traité et à la fois l'histoire, ça n'a absolument rien à voir. Donc, le public vont vraiment pouvoir voir deux formes complètement différentes avec une même base qui est la voltige sur l'acronette ou sur le trampoline.
Et quel a été le déclic pour vous à un très jeune âge, l'encouragement des parents par exemple?
Oui, ça c'est sûr que mes parents m'ont toujours beaucoup encouragé, notamment parce qu'en fait mon père avait une école de cirque et que du coup j'ai fait mes premiers spectacles avec mon père en fait quand j'avais 5 ans. Donc effectivement j'ai commencé très tôt.
Parlons un petit peu de vos autres projets et l'agenda pour 2026 après la tournée australienne.
Oui, bien sûr. Alors on a 6 spectacles en tournée et là on a notamment Face au mur qui est la dernière création pour l'espace public. Et là, en fait, j'ai revisité un peu la discipline du wall tramp, qui propose de mettre un trampoline devant un mur. Et donc, du coup, sauf que moi, j'ai créé toute une structure qui tourne avec un mur en plexiglas, qui permet d'être à la fois un miroir de ce qui se passe pour les artistes au plateau. Et aussi, voilà, qui symbolise la situation d'être face à un mur, face à une situation impossible, ben en fait voilà, on va montrer que en fait c'est possible.
Est-ce que ce sera une première pour vous à Womb Adelaide en Australie?
Ah oui, ce serait une première pour la compagnie en Australie, même de ce côté-là du monde. On a juste déjà joué en Corée, mais c'est vrai que on n'est jamais allé encore en Australie.
Que diriez-vous à ces Australiens qui nous écoutent pour les encourager à venir voir ce spectacle, les spectacles?
Ben, on est très impatients d'avoir les retours sur ces créations des Australiens et qu'en fait, voilà, il y a vraiment s'ils veulent découvrir un nouveau travail sur la voltige et des créations originales avec vraiment une très très belle musique parce que la création musicale est au cœur de mon travail. Je travaille avec des compositeurs sur chaque création. Donc voilà, c'est à la fois une immersion poétique, visuelle et musicale.
À très bientôt en Australie.
Avec grand plaisir, à très bientôt. Au revoir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Au-dessus des... des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait.
Zao de Sagazan avec la symphonie des éclairs en ce dimanche sur Radio SBS.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
On retrouve de nouveau Victor Percinette Gautrez de Caféine Fromagerie au South Melbourne Market. Bonjour Victor.
Bonjour Audrey.
Victor, vous êtes de retour avec nous aujourd'hui pour nous aider à monter un plateau de fromage. Personnellement, je pense qu'on peut jamais avoir trop de fromage, mais si on veut bien planifier, on vient vous voir, disons, pour commencer, combien de fromage vous recommandez et quelle quantité?
Ben, habituellement, j'ai quelques questions souvent quand je fais un plateau de fromage. Déjà, je demande pour quelle occasion c'est. Parce que bon, c'est vrai que... C'est un plateau de fromage pour 15 personnes. C'est différent qu'un plateau de fromage pour 3 personnes. Mais en gros, les règles du jeu, entre 3 et 5 fromages, c'est bien. Et des bonnes portions. Il ne faut pas avoir que une quinzaine de fromages avec des petites portions. Il faut que ça soit quand même un peu généreux. On peut jouer avec les différentes familles de fromages. Donc, par exemple... Vous pouvez aller sur une pâte molle à croûte fleurie, une pâte dure et puis un persillé. Vous pouvez changer, vous pouvez avoir une sorte de fromage de chèvre avec une pâte molle à croûte lavée et une pâte pressée non cuite. Mais le but du jeu, c'est d'avoir une diversité quand même sur le plateau. Après, vous pouvez aller encore plus loin. Vous pouvez avoir un fromage de chèvre. Enfin, un fromage au lait de chèvre, parce que ça pourrait être une pâte molle, un fromage au lait de brebis et un fromage au lait de vache. Comme ça, au moins, vous différenciez un petit peu les laits. Donc, il faut de la diversité. Il faut aussi faut de la couleur dedans. Donc, parce que bon, c'est un petit peu monotone si on est que sur des fromages blancs. Donc, souvent, si on demande un brie, un double brie et un triple brie, c'est un super choix si vous voulez faire un focus sur les pâtes molles à croûte fleurie. Mais le plus important, c'est d'avoir de la diversité. Après, les tailles, faut toujours penser entre 30 et 50 grammes par personne. Faut que ça soit quand même généreux. On peut toujours le garder, le fromage. C'est pas un use by, c'est un best before.
Et puis, est-ce que vous avez des fromages en ce moment chez Caséine que vous aimez en particulier, que vous recommandez?
Alors, nous, on adore, il y a certains fromages qu'on adore. Je crois que le numéro un, c'est le Bria Savarin. Bria Savarin, c'est un fromage qui est crémeux. Riche, onctueux, il est décadent, il plaît à beaucoup de monde. C'est un triple cream, c'est pas un brie, c'est un triple cream cheese, donc c'est légèrement plus tangy qu'un brie. Ensuite, si vous voulez aller local, faut aller sur un silver wattle. Là, on est sur, alors là, c'est plus un triple cream, là, c'est fait avec du lait crémé. Donc, c'est un peu basé sur la recette du Saint-Marcellin, mais c'est vraiment un fromage atypique puisqu'il a été créé en Australie et il ressemble à aucun autre fromage français. Donc, ça, c'est un top choix pour les gens qui veulent quelque chose de local. Donc, si vous voulez aller français, Bria Savarin. Si vous voulez aller local, Silver Wattle de Long Paddock. Long Paddock Cheese, ils sont basés sur Castlemaine. Pour les fromages durs, bon, j'irai sur du comté, puisque bon, c'est le fromage qui est un peu la signature de notre magasin, puisqu'on importe direct des fromageries Vagne. Donc là, on est sur une production octobre 2022. Donc il a 26 mois. Et en ce moment, il est crémeux sans être trop sec. Il est croustillant. Il a un petit peu de salé. Il est vraiment très, très bien équilibré. Et puis, si vous voulez aller sur un choix local, ben moi, j'irai sur du. Ça s'appelle le Raw Tom. Donc, c'est basé comme une tome de Savoie, mais c'est fait dans Tasmanie, à Bruny Island, avec du lait de vache. Et c'est tout non pasteurisé. Donc, c'est au lait cru. Et c'est une pâte pressée non cuite. Donc, souvent, on nous dit, oui, il n'y a pas de fromage au lait cru en Australie. Si, il y en a. Par contre, il coûte un petit peu parce que c'est beaucoup de, y a beaucoup d'administration derrière ces fromages pour qu'ils soient légaux en Australie. Mais on a le droit d'avoir du lait cru en Australie. Et donc, ça, le Raw Tom, bah, ça coûte 2 fois plus cher que le Comté. Mais par contre, là, vous avez quelque chose de compétition. Ça, c'est un top fromage. Celui qui le fait, c'est Nick Cado de Bruny Island. Ça fait plus de 25 ans qu'il fait du fromage. Donc moi, je recommande quand même le Bruny Island Raw Tom ou le Raw George. Deux fromages similaires, mais un petit peu différemment au niveau technique. Mais ces deux fromages sont super. Et puis, pour finir, ben, vous avez le classique en France. Donc, tout le monde va penser que je vais dire le Roquefort. Mais moi, j'adore le Bleu d'Écosse. Donc, le bleu d'Écosse, c'est le roquefort du pauvre, puisque c'est pas fait avec du lait de brebis, c'est fait avec du lait de vache. Et à l'époque, le lait de brebis était quand même réservé à une élite. De toute façon, la brebis, elle fait 1 litre de lait. La vache, elle fait 25 litres. Donc, si on fait nos calculs, on fait beaucoup plus de fromage avec une vache qu'avec une brebis. Même si le lait de brebis est beaucoup plus riche. Mais c'est vrai que le lait de vache est quand même plus abordable, on va dire. Et donc, l'histoire du Bleu d'Écosse et du Roquefort, c'est deux fromages qui sont faits exactement de la même manière. Ils viennent de la même région. Le Roquefort a une appellation qui est géographique qui est quand même plus restreinte, alors que le Bleu d'Écosse peut être fait dans un périmètre plus large. Mais les deux fromages sont affinés de la même manière, c'est-à-dire en cave naturelle. Ils sont fabriqués de la même manière, mais une des différences, c'est que le bleu d'Écosse est fait au lait pasteurisé, alors que le Roquefort est fait au lait cru. Ou sinon, vous pouvez aller sur le Riverine. Donc, le Riverine, c'est un fromage qui vient de Fish Creek. Fish Creek, c'est dans le Gippsland. Et il y a un producteur qui s'appelle Barry's Creek. Et il a 75 ans, Barry. Et ça fait quasiment 40 ans qu'il fait du fromage. Et il se focalise sur les pâtes persillées. Donc moi, celui que je recommande, c'est le Riverine, qui est une sorte de Stilton, même technique, mais qui n'a jamais été importé. Donc il n'a pas de bateau, il arrive frais dans vos assiettes. La technique est très bien exécutée puisqu'il fait que du bleu. Tout est fait à la main. Et le goût du Riverine, c'est quelque chose de très, très doux, presque sucré, avec une petite touche d'acidité. Donc, ça plaît à beaucoup de gens, c'est-à-dire ça plaît à celui qui est un amateur de bleu, parce qu'il est vraiment subtil, et il plaît aussi à celui qui n'aime pas du tout bleu.
Avec les fromages, qu'est-ce que vous recommandez d'offrir donc avec ces fromages?
Ben, alors, il faut aller tout simplement sur de la pâte de coin, ça marche toujours. Vous pouvez aller sur du miel. Il y a beaucoup de miel en Australie. Il y a beaucoup de honeycomb, les rayons de miel. Sinon, ben, si vous aimez le miel, faut aller aussi sur du miel à la truffe, parce que bon, ben, le miel à la truffe et le comté, ça marche très très bien. Le miel à la truffe avec les chèvres, ça marche très bien également. Vous pouvez aller sur du pain, mais les crackers, ça marche également. Faut être ouvert de toute manière. Il n'y a pas que le pain, mais le pain marche très très bien. Du pain grillé, il y a toujours aucun problème. Les lavoches également avec des poppy seeds et un petit peu de sel. Mais faut rester simple. Vous pouvez mettre des fruits également. Mais souvent nous le fromage, il a tellement de goût que on n'a pas non plus besoin de trop d'accompagnement. Des fois, less is more.
Et puis, est-ce qu'on oublie, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas demandé, d'autres conseils que vous avez à nous donner pour un excellent plateau de fromage?
Ben, il faut le plus important, c'est de le laisser aussi à température. Mais il faut pas oublier qu'on est en Australie et que les températures pour Noël, il fait ça peut être très chaud. Donc moi je dis toujours, tout dépend de la température que vous avez à l'intérieur de la maison pour qu'ils puissent vivre un petit peu et puis exprimer leur caractère entier, leur full characters.
Je pense qu'on est prêt pour la saison des fêtes, grâce à vous. Merci beaucoup, Victor. Et puis je rappelle donc pour retrouver vos fromages et vos conseils aussi chez KVN au South Melbourne Market de Melbourne. Merci beaucoup, Victor.
Et juste pour rappeler, on a aussi un website, donc avec KS Fromagerie, et puis là, on a des plateaux, donc c'est tout indiqué. Vous avez les plateaux de 3 à 4 personnes, les plateaux de 5 à 8 et les plateaux de 8 à 12 personnes. Donc, vous pouvez choisir dans ces trois plateaux si vous voulez pas trop vous tracasser la tête et on fait les livraisons. Donc, ça, c'est important de le savoir dans tout le Victoria. Et si vous voulez vraiment dans d'autres parts de l'Australie, on peut toujours s'arranger, mais ce sera pas tous les fromages, parce que les fromages doux, ils voyagent pas trop bien.
Parfait. Je pense que cette période-ci de l'année rend les choses plus faciles. Tout le monde apprécie ça. Donc, merci beaucoup.
Merci, merci Audrey. Au revoir.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter, d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie, parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier.
Tout oublié de notre chanteuse belge préférée, Angèle, en ce dimanche sur Radio SBS. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
SBS French, mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Si vous êtes fan de crêpes et de galettes, il faut visiter Oh My Crêpe, qui vient tout juste d'ouvrir à Elsternwick, au sud de Melbourne. On y trouve des classiques galettes au jambon et emmental et des crêpes au citron, mais aussi des spéciaux saisonniers et une fairy crêpe. On a rencontré les propriétaires, Marc et Émilie Debat. Je suis avec Émilie et Marc de Oh My Crêpe. Bonjour à vous deux et bienvenue dans le programme
Bonjour.
En français de SBS.
Bonjour,
Bonjour.
Merci beaucoup.
On va parler de Oh My Crêpe. On va y venir dans quelques instants. Mais d'abord, je disais, vous avez les deux un background, un parcours assez intéressant. Est-ce que vous voulez me parler de ce parcours et de ce que vous avez fait jusqu'à votre rencontre?
Pour ma part, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé en France à l'âge de 12-13 ans. On y allait le week-end aussi, enfin tous les étés. Et c'est là que j'ai commencé mes études hôtelières quand mes parents aussi ont ouvert un restaurant en même temps. Donc, je travaillais des shifts doubles à l'âge de 14 ans. Donc, j'ai commencé assez tôt. Et puis après, continuer. J'ai fait 6 ans d'école hôtelière. Après, parti sur Paris, fait le Crillon, Georges V. Également, ainsi de suite. Et puis après, parti chef pour des particuliers, entre Monaco, Courchevel, Lac Powell en Arizona sur un houseboat et une île privée aux Bahamas. Et puis après, j'ai décidé de partir de la France et avec la possibilité d'une green card, d'aller en Floride, où j'ai passé 16 ans, où j'ai été chef de cuisine pour des restaurants à gros volume, ainsi que des resorts 5 étoiles, 5 diamonds, et qui font partie des Small Leading Hotels of the World. Et après, j'ai rencontré ma femme, et donc du coup, on a changé. Donc après, je suis parti sur les yachts aussi, travailler sur les yachts, et après retourner pour les chefs pour des particuliers. Et donc après, on a décidé de
Déménager en Australie, ouais. En fait, moi, j'ai un background complètement différent. Je suis née à Hong Kong et j'ai grandi en France. J'ai fait mes études en France en marketing. Et puis, j'ai travaillé plusieurs années dans le marketing pour des marques de joaillerie, de luxe en Floride, là où on s'est rencontrés, donc. Et donc, une fois qu'on s'est rencontrés, bon, très vite, les choses ont évolué. Et puis, on s'est marié à Miami, tout ça. Et en fait, au moment de fonder une famille, c'est là qu'on a décidé vraiment de changer d'horizon et de venir s'installer en Australie.
Et pourquoi l'Australie en particulier?
Alors, bah, comme je l'ai dit, donc c'était juste au moment de fonder une famille, on avait vraiment une volonté, d'une part, de se rapprocher de ma famille, qui, donc, j'ai ma sœur ici en Australie et j'ai mes frères qui sont en Nouvelle-Zélande, en Thaïlande. Donc, c'était pour se rapprocher un petit peu de ma famille. Et puis c'est vrai que ce qui nous a attirés de l'Australie, c'est vraiment la qualité de vie. Il y a un vrai sens de la communauté ici qu'on aime beaucoup. Et puis la diversité, le multiculturalisme aussi nous ont beaucoup attirés.
L'éducation des enfants.
L'éducation des enfants aussi. Donc c'était plein de petites choses comme ça qui nous ont fait prendre cette décision et puis décider de venir s'installer ici à Melbourne.
Et puis est-ce que vous êtes nouvellement arrivé, ou du moins au Maghreb vient d'ouvrir il y a quelques semaines, quelques mois? Est-ce que vous êtes aussi nouveau en Australie?
Alors, donc oui, effectivement, au Maghreb a ouvert il y a un mois, donc c'est tout nouveau. Et nous, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on est arrivé ici. Donc voilà, on a vraiment pris le temps de s'installer, de prendre nos aises avec notre nouvelle vie, etc. Marc a travaillé chez François également, un restaurant français à South Yarra. Voilà, et puis donc quand l'opportunité s'est présentée, on s'est lancé et puis on a ouvert le shop.
Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en tête en arrivant ici? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des galettes, des crêpes?
Oui, on y avait pensé avant d'arriver ici, qu'on voudrait se mettre à notre compte un jour ou l'autre. C'est pas évident avec 2 enfants en bas âge, mais si on y arrive tout de suite, bah, le reste devrait être plus facile. C'est vrai que la demande au niveau des crêpes, elle est assez forte en Australie, que ma belle-sœur et mon beau-frère qui habitent ici depuis longtemps nous ont dit. Lui, il est breton également. Et donc du coup, c'est vrai que la galette en sarrasin était moins représentée, je trouvais. On s'est dit que bah ça pourrait être une bonne offre pour le coin d'Alstonwick où il n'y en a pas vraiment. Et pourquoi pas, parce que c'est quelque chose quand même qui est relativement sain. C'est gluten free. Il y a beaucoup d'allergies en Australie, j'ai remarqué depuis qu'on a ouvert. Donc du coup, ça propose une alternative qui est dairy free, sans produits laitiers, sans gluten. On peut les faire vegan également, vu que la pâte en elle-même, elle est vegan. Donc on arrive à cibler un petit peu ben, toutes les démographiques et toutes les allergies. Donc du coup, on trouvait que c'était une bonne opportunité, et c'est un peu comme un canvas qui est blanc.
C'est vrai que c'est à la fois ce qui nous plaisait beaucoup avec les crêpes et les galettes, c'est que c'est à la fois des produits simples, mais qui peuvent être vraiment déclinés à l'infini, et là où Marc, lui, peut être très créatif dans ce qu'il propose aussi. Et puis effectivement, comme il le disait, utiliser les produits de saison et tout ça, et les produits locaux as much as possible. Ouais.
Parlez-moi de votre menu. Qu'est-ce que vous me recommandez si je vais manger chez au Maghreb?
Bah, tout dépend. Si vous voulez être sur le classique, on a la complète qui on fait venir de l'emmental. Notre farine de sarrasin également vient de France parce que la locale, elle est plus pâle et elle a pas le même goût. La texture aussi est légèrement différente. Donc du coup, on préfère justement importer la farine. Pour la complète, c'est de l'emmental, ce qui est le fromage classique pour la complète avec un œuf. Et du jambon que je prends chez le boucher qui est dans la même rue pour faire partager, enfin pour utiliser un petit peu tous les business locaux au maximum. Après ça, on a pas mal de spéciaux. Là, celle qui arrive cette semaine, c'est donc une galette avec de la stracciatella dessus, des pêches caramélisées, du jambon serrano et du basilic frais. Et donc du coup, pour l'été, c'est vrai que vu les derniers jours qu'on a eu à 36 degrés et compagnie, c'est comme ça que c'est une option très fraîche, agréable et qui va de saison parce que les pêches elles commencent à sortir, elles commencent à être de bonne qualité. Et donc du coup, quand les figues fraîches aussi elles vont sortir, on fera quelque chose avec. On va essayer de décliner un petit peu toutes les classiques français sur une galette.
Avec un petit twist en général, on essaie toujours de rajouter notre petite touche personnelle. Et c'est vrai que Là où on met vraiment l'accent, c'est qu'on veut vraiment utiliser des ingrédients de qualité, des produits locaux au maximum. Donc, il y a des choses vraiment, il faut faire le compromis entre la qualité et le local, comme Marc le disait avec la farine, par exemple. Mais on est très fiers de, on a un menu assez varié, donc un menu de base. Et puis, comme Marc le disait, on a aussi les spécialités du moment. Donc, on peut toujours varier les plaisirs. Il y aura toujours quelque chose de nouveau à proposer pour les gens qui viennent régulièrement également.
Et pour tous les clients, on peut, j'allais dire un mot anglais, mais bon,
Allez-y.
customized. Voilà, donc chaque galette peut être adaptée à tous les clients. Ils peuvent l'avoir juste simple, et après c'est eux qui peuvent choisir ce qu'ils veulent mettre dessus. Tout est possible. On est très flexible, et justement pour que tous les gens puissent prendre leur plaisir et trouver leur goût.
Et puis, on a aussi des projets qui vont arriver à moyen et long terme, des choses qu'on veut lancer également comme des chips de sarrasin qui seront parfaites pour l'apéro. On travaille aussi sur un gâteau mille crêpes pour les occasions spéciales comme les anniversaires. Et puis on aura aussi des roulés de galettes de sarrasin. Donc ce sont des galettes de sarrasin roulées et puis coupées comme une taille amuse-bouche. Les sushis français. Et donc, ça, on proposera également pour les événements spéciaux qui pourront être commandés à l'avance et proposés pour des buffets, par exemple, des choses comme ça.
J'ai vu que vous aviez une fairy crêpe, j'imagine, qui est très populaire chez les petits.
Ça marche pas mal, oui, effectivement. Il y a pas mal de personnes qui sont plus âgées quand même, qui eux nous posent la question. Et quand on leur explique, oui, c'est des sprinkles et du beurre, un peu comme le fairy bread qui est classique, qu'on a découvert ici aux anniversaires que notre fils a été. Et donc du coup, on s'est dit, bah pourquoi pas, ça pourrait plaire. Et effectivement, oui, ça marche plutôt bien.
Et puis on disait donc c'est tout nouveau au Maghreb, mais quel accueil vous avez reçu jusqu'ici?
Alors, on doit dire, c'est là où je parlais également du sens de la communauté. On a reçu vraiment un très bel accueil du quartier. La communauté est vraiment d'un grand soutien. Ils sont très chaleureux. Même les Australiens qui connaissent pas tellement les galettes, en fait, sont très curieux. Ils posent beaucoup de questions et puis ils sont ravis d'essayer quelque chose qui est différent. C'est vraiment une option qu'ils ne connaissent pas pour l'instant. Et donc, notamment quand ils découvrent ça, on a toujours des retours assez positifs et les gens se régalent. On a même déjà quelques clients fidèles qui reviennent toutes les semaines. C'est devenu un petit peu un rituel pour eux. Ils viennent essayer justement les spécialités de la semaine pour toujours essayer quelque chose de différent. Et puis on a aussi beaucoup d'enfants qui viennent régulièrement avec leurs parents pour le petit goûter de fête de la semaine. Donc non, non, vraiment, les gens sont ravis, je pense, d'avoir une option différente et nouvelle. Et ils sont très, très, ils nous soutiennent beaucoup. Ils sont très positifs avec nous. Donc c'est vraiment un accueil chaleureux.
Également, tous les autres business sont très très chaleureux. Ils viennent, ils essayent, ils nous disent bienvenue.
Il y a vraiment un esprit d'entraide dans la communauté entre les business qu'on aime beaucoup également. Ça change tout en fait d'avoir un environnement comme ça chaleureux et positif
Pas
autour de
compter
nous.
sur cette rue, il y a quand même énormément de restaurants. Voilà, des Français, il y en a pas loin de chez nous, mais qui font des crêpes, il y en a pas. Et les galettes. Donc du coup, on s'est dit pourquoi pas. C'est pas très loin de là où on habite également. On connaît bien le coin, donc du coup, on pense que ça devrait bien marcher. Le temps que les gens commencent à connaître la galette, sachent exactement ce que c'est. Souvent, on sort avec des samples pour que les gens goûtent, mais tout le monde nous dit ah ben non, je peux pas la farine et tout ça. Donc du coup, on dit bah on a une option gluten free. Et tout. Ah bon, vous avez? Donc du coup. C'est le temps que le bouche à oreille se fasse et voilà, on va commencer à sortir des spéciaux aussi chaque semaine qu'on va promouvoir sur les réseaux sociaux et comme ça les gens peuvent voir à l'avance à quoi s'attendre et puis si ça les intéresse venir nous voir. Comme ça, on a quelque chose qui tourne régulièrement et on a toujours le même menu de base, mais après tous les spéciaux vont vraiment changer et ça va être assez intéressant.
On viendrait vous visiter alors. Donc, on rappelle, au Maghreb, c'est à Elsternwick, au sud de Melbourne. Merci beaucoup, Émilie et Marc.
Merci à vous, merci à vous.
Merci
Et
beaucoup d'avoir
également pour tous vos auditeurs, s'ils disent qu'ils nous ont écoutés sur votre chaîne, ils ont 10% de réduction quand ils viennent nous visiter.
une raison de plus de venir alors. Merci.
Exactement.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
Vous aimez le programme en français?
continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
J'ai le plaisir de recevoir la réalisatrice mauricienne-australienne Annick Sadou-Currington en marge de la première de son premier long métrage Code Noir. Annick, bonjour et bienvenue sur SBS French.
Bonjour Bertrand, je suis ravie d'être là.
Ça fait vraiment plaisir de pouvoir nous entretenir avec vous de ce film, un film qui parle d'une histoire extraordinaire, l'histoire de l'esclavage en île Maurice. C'est un côté, je dirais, en tant que critique, c'est un esclavage un peu plus doux que ce qu'on a l'habitude de voir dans la façon dont on montre l'esclavage aux États-Unis. C'est beaucoup plus
brutal. Bien sûr.
Ici, c'est un peu plus doux quand même, mais c'est très beau du point de vue des images. Et ces images, en fait, tout se met ensemble avec une musicologie quand même assez extraordinaire. Et ça vous a amené jusqu'à la collaboration avec la librairie de l'Orchestre symphonique de Vienne et tout ça. Parlez-nous de ce parcours et de la fusion des genres, donc images, sons, écrits. Parlez-nous de tout ça.
Tout a commencé quand... C'était impressionnant parce que Lee travaillait déjà avec la librairie de Vienne depuis qu'il a commencé à faire la musique. Le jour... On a commencé à mettre en place le film, l'assemblage, le montage. Et c'est à ce moment-là que Vienna avait, je crois, avait introduit un dual string. C'est un programme. Et lui, il était enchanté. Il me dit, ah, je vais pouvoir écrire maintenant quelque chose à l'orchestre. Parce que lui, c'est vraiment l'orchestre, le symphonie orchestra qui est plus son, le côté qu'il aime faire. Et là, ça lui a pris un an de travailler parce que écrire le score, c'est pas aussi facile que les gens croient. Et là, je viens de faire une compétition avec une scène du film. J'ai compris à quel point c'est pas aussi facile. Parce qu'on réécrit l'histoire avec de la musique cette fois-ci. On réécrit le script en musique. C'est ça qui est le plus impressionnant dans tout cela. Quand on avait fini d'écrire le score, là, on s'est retrouvé à un autre problème, c'est-à-dire qui va mixer le son, parce que c'est pas aussi facile de trouver quelqu'un d'aller dans un studio et de dire ben mixe-nous le son de 90 minutes d'orchestre, quoi. C'est pas aussi facile que ça. Et du coup, lui me dit que ben je vais essayer d'écrire à Vienne et voir si ça leur dirait de mixer ça pour nous. Comme d'habitude, lui il est très je l'appelle un peu cheeky, il me dit « je vais envoyer l'email ». Il a envoyé l'email et ils ont répondu, ce qui était impressionnant. Et il dit « ouais, ben montre-nous ce que vous avez ». On a envoyé les 10 premières minutes du film. Le lendemain, il nous a dit « Zoom meeting, s'il vous plaît, on a vraiment envie de travailler avec vous. Racontez-nous toute votre histoire, comment ça s'est passé ». Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que Vienne, la librairie de Vienne, ils ont commencé comme nous. Une idée folle dont tout le monde leur a dit ça ne marcherait jamais. Ben voilà, ils en sont aujourd'hui, c'est eux les meilleurs au monde et c'est là où Hans Zimmer, ils font tout leur. Ils enregistrent les scores des grands films. Nous, on a été impressionnés de voir qu'ils étaient impressionnés par nous. Parce que nous, on s'est dit.
Non, mais le résultat est fantastique quand même. Parce que. Le son, c'est un film qui se vit et qui s'écoute, parce que les paroles, les images et la musique vont très très bien ensemble, les moments dramatiques et tout ça, donc on sent les émotions qui montent et puis ça redescend, les tensions qui se cristallisent et tout ça. Le rendu est vraiment très 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 beau à voir et à écouter, et surtout.
Oui.
Et vous avez tourné ce film entièrement au Queensland.
Oui.
Comment avez-vous réussi à recréer l'atmosphère de l'île Maurice, surtout à l'époque coloniale, avec donc
des paysages australiens, des lieux australiens.
Il y a surtout ce qu'on appelle le location scouting dans l'industrie du film, c'est-à-dire vous allez voir, vous allez chercher. Comme j'habite sur la Gold Coast, il y a déjà ce paysage qui ressemble vachement à l'île Maurice. Il y a déjà, on a la mer, on a la plage. Moi, j'habite pas très loin de la forêt. La seule chose qui était la plus difficile, c'est trouver la maison principale, parce que l'île Maurice est quand même beaucoup plus vieille
L'Australie,
que
ouais.
Au début, on voulait venir à Melbourne, mais quand il y a eu le Covid, c'était fini. C'est-à-dire que là, on n'avait plus. Et là, on a cherché. Comme par hasard, j'avais déjà vu un film avec cette maison. J'ai dit, bon, je vais rechercher ça. Et je l'ai retrouvé. Et on a conduit 3 heures et demie pour aller chercher la maison. Et c'est vraiment au fin fond de Queensland. Et quand j'ai vu la maison, j'ai dit, ben, c'est exactement ce qu'il me faut. On a eu de la chance parce que c'était Covid, personne ne louait la maison à l'époque. Ben on a loué la maison pour un mois et on a campé dehors, on a tout filmé. Après, bon, il y a les champs de cannes qu'on a ici en Queensland. On a un peu aussi dans le north de New South Wales. Et voilà un peu parce que c'est retracer toute. Disons que moi, j'ai retracé le paysage par rapport de là d'où moi je viens. J'habite dans le sud-est de l'île. Et c'est un peu le même paysage qu'ici.
D'accord. Côte Noire traite d'un passé sombre, mais propose aussi une ouverture vers la guérison. Quel sentiment souhaitez-vous que le public emporte en quittant la salle?
Pour être honnête, je pense que chacun aura un message, une émotion par rapport à où ils en sont eux-mêmes avec dans leur vie, personnellement. Parce que moi, quand j'ai écrit Code Noir, c'est pour moi, c'est le script, c'est comme une littérature. C'est-à-dire, on a une première couche qu'on voit, et puis il y a une deuxième couche qu'on voit, et puis il y en a trois autres couches qu'on ne voit pas. À chaque niveau où on est avec nous-mêmes, ça va nous permettre de comprendre le film à ce niveau-là. Je m'attends pas à ce que tout le monde soit content. Je m'attends pas à ce que tout le monde me dise oui, c'est fantastique. Mais je sais que pour moi, j'ai fait le travail. C'est ce qui est le plus important. Le message, il est dans le film. Si ça dérange, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à aller vraiment soigner. Et si ça dérange pas, c'est-à-dire qu'on est soigné. Et là, on peut continuer notre chemin. Mais je pense que ça va évoquer quand même pas mal de pleurs, pas mal de. Aussi beaucoup d'engagement, je pense. J'ai pas voulu, comme si, faire que tout soit sombre. Sinon, on n'aurait pas été là. Si tout était vraiment sombre à ce point, que tout le monde était méchant, tout aurait été anéanti. C'est parce que ça n'aurait pas pu sustain en tant qu'une colonie. C'est-à-dire, il y a eu quand même des moments où il y a eu des choses, parce que tout n'est pas aussi noir, aussi sombre. Sinon, on n'aurait pas été là. Ils ont toujours montré ce côté sombre. J'ai pas à revenir dessus. On le sait déjà. C'est pas ça dont moi je voulais faire. Moi, je voulais montrer un côté qui est humainement, c'est-à-dire qu'on n'était pas tous méchants, qu'on n'était pas tous bons, on était tous humains, perdus. C'est-à-dire il y a un travail beaucoup plus en profondeur de l'être humain que j'ai fait sur ce film. Et je pense que les émotions vont être partagées, honnêtement.
Mais avant de partir, il y a eu en fin de credits un hommage à une des actrices, Rokosile Musonda, qui est morte, je crois, en 2024.
Oui.
Vous avez mis ça dans les credits. Est-ce que vous vouliez dire un mot ou deux à propos d'elle ou...
Ce que je voulais dire, c'est que c'est avec beaucoup, beaucoup de regrets que toute l'équipe, quand on a appris sa mort subite, ça nous a vraiment affectés. C'était une fille extraordinaire. Alors pour moi, je n'ai pas l'impression qu'elle est partie parce que je la vois toujours avec nous, surtout dans ce film. Ce qui est extraordinaire, c'est que son passage était tellement surprenant en tant qu'une jeune fille avec son histoire à elle. Et ce qu'elle a ramené à ce film, c'était vraiment, vraiment important. Et tout l'amour, tout le travail. Oui, ça a été très difficile. C'est même de mettre ce crédit à la fin, c'était quand même très difficile de la voir. Comme ça, parce qu'on aurait tellement souhaité qu'elle soit là pour fêter ce qu'on a travaillé pendant ces
Exactement.
scènes. Mais une chose est sûre, c'est que ce film gardera toujours le passage de sa vie ici.
Et après ce premier long métrage vraiment audacieux, quel récit souhaitez-vous explorer à l'avenir et avez-vous d'autres projets en tête?
Ah, il y en a plein.
Ok.
Ah, j'en ai écrit pas mal en ce moment. Et là, je suis juste en phase de voir quel est le prochain que je vais vraiment
Explorer.
explorer. Disons que celui-là, c'était plus un projet personnel avant tout. À partir de maintenant, je peux être une réalisatrice beaucoup plus ouverte que ce que j'ai écrit pas mal de choses, que ce soit fiction et tout. Mais disons que ça, c'était quelque chose qu'il fallait que je raconte. Et surtout, surtout, de rappeler à tout le monde que on a une industrie du film ici, mais qu'on n'est pas obligé de suivre, parce que tout le monde, des fois, se fait rattraper par cela, et on finit par ne pas raconter notre histoire. Parce que moi, je suis partie contre tous ceux qui m'ont dit que c'était pas possible, et finalement, je l'ai fait.
Et le résultat est extraordinaire. En tout cas, Annick Sadou-Corrington, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler de votre film, Code Noir, un film qui sort en salle dans exactement 2 jours à la Gold Coast.
Merci beaucoup, Bertrand. Merci.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
C'était Karma de Naaman, le regretté Naaman qui nous a quittés cette année, il y a quelques mois. Voilà, c'est tout pour notre émission ce dimanche. Merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un très bon après-midi à tous. Je vous rappelle également que toutes nos émissions et tous nos podcasts sont disponibles sur notre site internet sbs.com.u/french. Et bien entendu, je vous rappelle également tous nos films disponibles et films en français disponibles sur la plateforme d'SBS On Demand, sbs.com.u/on-demand. Voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À mardi.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.